Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo, effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis auditeurs de VOA Afrique.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngwe est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine à Columbus dans l'Ohio ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et bien évidemment, Amine Birouk va intervenir de temps à autre dans cette émission de Sporama. Merci à tous, en tout cas, de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir de la CAN des moins de 23 ans Maroc 2023. Les demi-finalistes sont connus. Nous ouvrons aussi une fenêtre sur les transferts. Le centrafricain Geoffrey Kondogbia rejoint l'Olympique de Marseille. Et puis, enfin, nous évoquerons aussi la préparation des équipes féminines africaines pour la prochaine Coupe du monde de football des dames. Nous débutons ce numéro de Sporama avec la CAN des moins de 23 ans. Fini les matchs de la phase de poule. Les demi-finalistes sont connus dans le groupe B. Le tenant du titre, l'Égypte, qui a fini donc première de la poule, est accompagné par le Mali. Dans ce groupe, le Niger et le Gabon sont out dans la poule A. Le pays hôte, le Maroc et la Guinée ont tiré leur épingle du jeu. Analyse avec Amine Birouk, notre consultant sur place à Casablanca, au Maroc.
Porte plein donc pour l'équipe du Maroc qui a réussi à gagner ses trois matchs lors du premier tour. Trois visages différents, poussif face à la Guinée, plutôt conquérant et souverain contre le Ghana, comme le prouve le résultat, une victoire sans appel sur le score de 5-1. Et puis, lors du troisième match, c'était le moment des rotations, puisque le sélectionneur Issam Charaïa a présenté ses réservistes qui ont eu du temps de jeu et qui ont pu l'emporter face au Congo 1-0. Un score qui ne reflète nullement la domination de l'équipe du Maroc, qui doit maintenant se préparer pour le match le plus important de cette génération, puisqu'une victoire en demi-finale face au Mali signifie une qualification automatique pour les Jeux Olympiques, une compétition que le Maroc n'a plus disputée depuis les JO de Londres en 2012. Le deuxième qualifié, c'est la Guinée, une formation qui est montée parfaitement en puissance. Elle avait déjà tenu tête au Maroc, ne s'inclinant qu'in extremis sur le score de 2-1. On l'a vu maîtriser sa partition face au Congo 3-1, et puis dominer le Ghana sur le terrain, même si le tableau d'affichage n'a reflété qu'un match nul, un but partout. Mais on a vu de belles individualités entraînées par Morley Silla, une formation guinéenne qui promet de défendre crânement ses chances de qualification pour les JO de Paris 2024. Il faudra pour cela se mesurer à la formation égyptienne. Une équipe d'Égypte qu'on a vue alternant le bon et le moins bon, inefficace et malchanceux contre le Niger avec en prime un match 0-0, opportuniste devant le Mali 1-0, une victoire arrachée dans les 10 premières minutes du match, et puis jouant parfaitement le coup face au Gabon lors du dernier match, avec une victoire à l'usure, puisque les deux buts des Pharaons ont été marqués dans le dernier quart d'heure du match. Et puis, le dernier demi-finaliste, c'est la sélection malienne, qu'on avait vue lors des qualifications face au Sénégal, où ils avaient été parfaitement impressionnants. Ici, à Tanger, ils ont dominé le Gabon 3-1. On les a vus souffrir face à l'Égypte, face au métier des jeunes joueurs qui disputent cette compétition côté égyptien. Et puis, lors du derby face au Niger, au moment où il fallait gagner, il fallait mettre le bleu de travail, les Maliens se sont acquittés de cette tâche, marquant au début de la seconde mi-temps et surtout gérant parfaitement les offensives de leurs voisins avant de frapper une deuxième fois en contre. Voilà les quatre qualifiés, en attendant bien évidemment de connaître le verdict des demi-finales qui auront lieu demain avec à partir de 17h en temps universel Égypte-Guinée et à 20h en temps universel à Rabat, Maroc-Mali.
Voilà, Élisée, en attendant justement ces oppositions des demi-finales, hein, demain mardi, comme le disait Amine tout à l'heure, alors pour le moment, on retiendra que la hiérarchie, par exemple, sur le papier en tout cas, a été visiblement respectée dans la poule B.
Bien évidemment, puisque c'était une poule très attendue, hein, dans cette compétition, puisque là, le premier match qui a vu le Niger tenu en échec l'Égypte tenante du titre, vous imaginez, c'était un peu la première surprise. Mais après, la logique a été respectée. Le Gabon, qui était véritablement attendu, hein, puisque vous imaginez, la première édition de cette CAN des moins de 23 ans a été remportée par le Gabon, et justement au Maroc. Donc, le Gabon attendu a déçu. Le Mali s'est remis sur le bon chemin en allant chercher difficilement sa qualification en s'offrant le Niger 2-0. Donc, vous imaginez, donc la grande déception, c'est bien sûr le Gabon qui finit dernier du groupe. L'Égypte défendra bien sûr son titre, puisque tout va se jouer désormais en demi-finale où les deux vainqueurs seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Le troisième, celui qui va remporter le match de classement, va aller suite, donc vous imaginez. Et le quatrième prendra part un tour préliminaire avec une équipe de l'Asie ou de l'Océanie. Donc vous imaginez, le chemin est encore long. Le Maroc, qui a connu une préparation très difficile, hein, en concédant deux défaites à domicile, puisque devant le Sénégal, les Sénégalais qui les avaient largement battus, le Sénégal qui se voyait déjà tout beau a été éliminé par le Mali. Donc le Maroc sera bien sûr à domicile, ira jusqu'à la fin, mais attention à cette équipe malienne qui joue toujours les troubles faites. L'Égypte aussi devrait se méfier des Guinéens qui ont montré de très belles choses, hein. Même pour le match d'ouverture, la Guinée méritait mieux.
Voilà, la Guinée méritait mieux. En tout cas, c'est ce que fait sourire justement Georges Léonard Sagno ici avec nous. Alors, Jules, parlant des Panthères Espoirs qui quittent la compétition sans le moindre point enregistré. C'est quand même, hein, une grosse déception. Élisée le disait tout à l'heure.
Oui, il faut dire que les causes de l'échec gabonais sont aussi bien internes qu'externes. D'abord, sur le plan interne, les compétitions sont à l'arrêt depuis des lustres. Il y a une absence de championnat de jeunes. Les écoles de formation sont fermées pour la plupart, même celles de Port-Gentil qui a produit tant de talents. Bon, il y a aussi, pour celles qui sont là, la baisse de qualité dans la formation des jeunes. Alors, à un moment donné, les clubs ont profité de la main de l'État pour qu'ils puissent se développer, se professionnaliser. Mais cette manne est devenue intermittente, et surtout la tutelle et les clubs se rejettent la responsabilité quant à l'échec de l'initiative. Les infrastructures sont relativement en déclin. Et maintenant, sur le plan externe, il faut savoir que l'adversité dans cette poule était très relevée, et avec des spécialistes de football de jeunes ou de catégories intermédiaires que sont l'Égypte, le Mali, et même le Niger, qui fait du bon travail depuis assez longtemps. Et pour tout dire, donc, il était totalement miraculeux que le Gabon puisse se sortir de ce pas, même s'il faut se dire que c'est 8 équipes africaines seulement se retrouvaient là-bas. Le fait d'être parmi les 8, c'est déjà une performance en soi. Et vous savez, 8 sur une cinquantaine, ce n'est pas si mal, mais seulement le parcours pendant la compétition a sûrement été aussi grévé par une préparation très chaotique.
Voilà, une préparation très chaotique donc, hein, pour le Gabon. Alors Amdine, je le disais tout à l'heure, même si le Niger quitte la compétition, il faut rappeler, hein, le Niger qui découvre cette CAN des moins de 23 ans, les jeunes Nigériens ont montré quand même de belles choses, hein, dans cette CAN.
Oui, tout à fait. Je l'avais dit lors de la précédente émission. Le Niger, c'était le petit poussé. Ils découvraient la compétition. Ils ont vraiment tenu tête à l'Égypte lors du premier match, mais après, on a vu qu'ils ont sombré. C'est normal, c'est l'apprentissage qui est trop dur pour ces jeunes Nigériens. Mais l'essentiel, c'était d'abord de se qualifier, participer à cette compétition qui regroupe quand même la crème du football africain au niveau des U23. 8 équipes sur 54 nations se qualifier, c'est déjà quelque chose de grandiose pour moi, puisque des équipes comme le Sénégal, le Burkina, des pays qui ont quand même des petites catégories qui tirent leur épingle de jeu n'arrivent pas à se qualifier. Donc chapeau à cette équipe du Niger. Maintenant, pour revenir aux demi-finalistes, si on regarde les quatre équipes, on se rend compte qu'il y a le Maroc qui est en train de un peu survoler cette compétition dans son groupe avec trois matchs, trois victoires. Le Maroc a fait un carton plein. Il y a l'Égypte de l'autre côté qui a engrangé deux victoires et un match nul. Mais il y a également les deux novices, puisque le Mali et la Guinée, c'est la première fois qu'ils se qualifient en demi-finale pour cette compétition. Donc, ce sont des challengers qui peuvent créer quand même la surprise. En tout cas, on a des affiches alléchantes pour ces demi-finales, Yacouba.
Dans la poule A, Amine le disait, le Maroc et le Mali, Amine le disait également, se sont donc qualifiés pour les demi-finales au détriment du Ghana et du Congo. Élisée, les Ghanéens sont à égalité de points avec les Maliens, 4 unités. Mais le Ghana paye surtout sa lourde défaite, on se rappelle, 5-1 devant le Maroc.
Voilà, et il n'y a pas d'autre mot, c'est cette défaite, lourde défaite, hein, qui c'est le sort des Ghanéens, les Ghanéens attendus dans ce groupe, les Ghanéens qui on voyait visiblement terminer deuxième hein, derrière le Maroc, mais cette lourde défaite concédée contre le pays hôte a scellé leur sort, donc ces Ghanéens ne peuvent qu'en s'en prendre à eux-mêmes, mais il faut reconnaître aussi que la Guinée aussi n'a pas démérité. La Guinée, comme je le disais tantôt lors de ce premier match, aurait pu bénéficier, aurait pu finir par sur un nul de 2-2 contre le Maroc. Donc la Guinée s'est reprise par la suite. Le Ghana aurait dû remporter son dernier match face justement à ces Guinéens, ce que les Ghanéens n'ont pas fait. Donc vous imaginez que les Ghanéens ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Donc la déception aussi, quand on parle du Gabon, on parle aussi du Ghana qui pouvait se qualifier pour les demi-finales, puisque l'objectif c'était ça, retrouver le Ghana une fois encore aux Jeux Olympiques, ce qui n'est plus arrivé depuis fort longtemps.
Le Congo, lui, quitte la compétition aussi, hein, sans le moindre point enregistré, avec une dernière défaite 0-1 devant le Maroc. Son sélectionneur crie à l'arbitrage favorable pour le pays hôte, le Maroc justement. On écoute Cyril Ndonga.
Le bilan que je peux faire rapidement, c'est apprendre nos erreurs. C'est une première participation de erreur. On a peut-être vu trop grand que nos yeux, mais je pense que l'exigence de la compétition ont démontré qu'on a pêché tout faire un certain nombre de choses. Et je pense que la toute sportivité, il faut reconnaître qu'on n'était pas mauvais, c'est vrai, mais nous faisons le bilan et on part d'ici avec 3 buts marqués, 6 buts encaissés, 7 buts encaissés. C'est énorme, mais comme je l'ai dit, en matière de football, voilà, il faut toujours se remettre en question. Je pense que depuis le match du Ghana, il y a même les Amis qui ont déclaré voilà, ce petit côté favoritisme que les arbitres font de la part de nos amis marocains. Je trouve que c'est pas normal. Et s'il faut que tous nous conversions dans la même direction afin de monter le curseur à ce conseil de football africain, il va falloir que, voilà, que les arbitres soient dans la loyauté absolue parce que je pense que c'est le petit démon dans cette compétition, on veut toujours favoriser. Et si j'étais de la CAF, si je me le permets, je pense qu'il faut revoir. On ne peut pas organiser une compétition et observer tout ce que nous avons observé. C'est dommage.
Voilà, c'est dommage, dit Cyril Ndonga, sélectionneur du Congo, au micro donc d'Amine Birouk. Alors, Jules, c'est pratiquement un coup de gueule, hein, l'éternelle question de l'arbitrage.
Oui, bien sûr. Mais seulement l'arbitrage n'explique pas tout. L'arbitrage n'explique pas tout. Le sélectionneur congolais a insisté dessus. Mais il faut voir quand on a le tableau général que l'Afrique centrale a grandement failli. Et ce n'est pas la première compétition où cela se passe. Et le Gabon et le Congo ont déposé les armes dès la deuxième rencontre. C'est la deuxième rencontre et il faut donc dire que tout compte fait, même pour les coupes, les grands, et quand l'Afrique centrale n'est pas représentée par le Cameroun qui semble être l'arbre qui cache la forêt, et les résultats ne suivent pas. Donc l'arbitrage, oui, peut être critiqué, mais l'arbitrage ne suit pas tout.
En demi-finale demain mardi, l'Égypte joue donc la Guinée et le Mali affrontent le Maroc. Et pour le sélectionneur du Maroc, le début de la rencontre sera déterminant.
Comme vous avez dit, c'est une équipe qui a beaucoup de force offensive. Je pense le début de match va être très important. Alors on doit bien entamer le match comme on a fait les trois premiers matchs, à part peut-être le premier match qu'on n'a pas vraiment très bien commencé, mais on a bien fini. Ça, c'est le plus important. Le début de match va faire la différence. Et pour nous, comme on a toujours fait, on a marqué 8 buts dans les 3 matchs. On veut marquer des buts, on veut faire plaisir au public, mais on veut d'abord gagner les matchs. Ça, c'est le plus important.
Voilà, Issa Macharaï, sélectionneur donc des moins de 23 ans du Maroc. Amine Birouk revient sur les forces et les faiblesses justement de cette équipe marocaine.
Voilà des demi-finales qui promettent puisque les Marocains vont devoir aligner la meilleure formation possible. Je suppose avec la présence des deux tauliers qui sont descendus de l'équipe A et qui ont disputé la dernière Coupe du Monde, à savoir Abdeslamad Zelzouli, le joueur du Barça qui était prêté cette saison à Osasuna et qui pour l'instant le meilleur joueur de la compétition et le meilleur buteur avec 3 réalisations, et le jeune Bilal Khennous qu'on avait découvert lors du match de classement de la Coupe du Monde contre la Croatie, qui avait aussi été l'inspirateur du jeu de l'équipe du Maroc lors de la victoire arrachée à Tanger en amical contre le Brésil. Ce sont 2 joueurs importants. Il faudrait ajouter aussi Ismaël Sibari, l'élément perforateur du PSV Eindhoven. Ses entrées en jeu, que ce soit contre la Guinée ou sa production contre le Ghana, ont été déterminantes dans la réussite de l'équipe du Maroc. Mais attention, les Marocains sont fragiles derrière. La charnière centrale n'a pas été du tout rassurante. Le gardien de but a donné quelques frayeurs aux supporters. Et puis en face, il y aura une équipe malienne suffisamment outillée pour pouvoir gêner le Maroc. Tout le monde sait que les Marocains ont du mal à faire bouger les blocs défensifs bas, surtout quand ils sont denses. Est-ce que les Maliens vont se prêter à ces tactiques comme l'avait fait la Guinée, ou bien ils vont préférer livrer un match avec leur qualité, cherchant à presser l'équipe marocaine et à jouant, un match plus offensif. Mais visiblement, s'ils choisissent cette solution, ça va être très compliqué, puisque les Marocains maîtrisent d'autres registres, et notamment l'attaque rapide et le contre, avec des joueurs qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1. Et surtout, ils seront portés par un public qui a réussi à faire le plein lors de leurs 3 matchs au complexe Moulabla de Rabat.
Alors, Élysée, Maroc-Mali, justement, à entendre Amine Birouk, ça semble être un choc, a priori, en tout cas, équilibré.
Un choc, pas a priori. C'est d'ailleurs le match au sommet de cette demi-finale, la seconde affiche de cette demi-finale. Le Maroc, jusque-là, qui a réussi à faire un carton plein dans son groupe, est véritablement en confiance. Le Mali aussi, qui a monté en puissance, vous imaginez, et qui parle du football de catégorie d'âge sur le continent africain. On ne peut jamais ignorer le Mali, vous imaginez. Donc, c'est une rencontre qui va se disputer et qui va se jouer sur des détails. C'est vrai, ça me plaît de dire que le Mali a plus d'expérience dans ce genre de compétition que le Maroc. Voilà que le Maroc va évoluer à domicile et fort d'avoir enchaîné plusieurs victoires. Ça aussi, ça pourra jouer en faveur des Marocains. Mais une chose est sûre, et à Yacouba Ouédraogo, on aura une très belle affiche parce que n'oublions pas, le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques.
Voilà, qui est bien dit. Maroc-Mali, c'est demain, mardi, donc à partir de 20h, temps universel, mais bien avant. La première demi-finale opposera l'Égypte, championne en titre, à la Guinée à 17h, temps universel. Un match qui ne va pas rater Georges Léonard Sagno. Les pharaons espoirs sont rodés, nous dit Amine Birouk.
Autre demi-finale qui aura lieu à 17h en temps universel mettra aux prises une équipe égyptienne avec une composante venant du championnat local. Des joueurs qui sont rodés aux compétitions africaines, qui sont déjà rodés aux joutes, qui sont souvent compliquées du championnat égyptien, avec les éléments d'Ali, de Zamalek. Ce ne sont pas des titulaires en puissance dans leur club, mais ils ont suffisamment de métiers. Et on l'a vu la façon avec laquelle ils ont battu les Maliens lors de leur match le plus compliqué, où ils ont su garder leur calme, leur sang-froid. Ils sont redoutables sur coup de pied arrêté, ils frappent de loin et sont capables sur 1 ou 2 séquences de faire la différence. Face, il y a une équipe guinéenne beaucoup plus talentueuse, mais peut-être un peu plus irrégulière. Il va falloir que les Guinéens soient plus disciplinés sur le terrain et qu'ils puissent faire parler leurs individualités. Ils en possèdent quelques-uns, notamment Agibo Camara, qui a été le meilleur élément de cette équipe. Et on verra dans quelle mesure ils pourront imposer une conception du football assez chatoyante et qui a permis à la Guinée d'atteindre ce stade de la compétition.
Elle se prépare pour la très prochaine Coupe du Monde féminine senior prévue du 20 juillet au 20 août de cette année. En Australie et en Nouvelle-Zélande, 4 pays représenteront l'Afrique du Sud à ce mondial. Rappelez-vous, les 4 demi-finalistes de la dernière CAN féminine disputée l'année dernière au Maroc, la Zambie, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud, championnes en titre. Les joueuses de la sélection sud-africaine ont été accusées d'être des mercenaires et des traîtres par l'un des hauts dirigeants de la Fédération sud-africaine de football qui leur reproche d'avoir refusé de disputer un match de préparation face au Botswana en Sakane, à une cinquantaine de kilomètres de Johannesburg. Les filles ont estimé que la pelouse n'était pas en l'état, puisque c'était une pelouse mélangée de gazon et de terre. Alors, Jules, ce n'est pas des stades qui manquent en Afrique du Sud. On ne comprend pas pourquoi la fédération n'aurait pas tout simplement affecté un stade aux normes, surtout que c'est pour préparer une Coupe du Monde aux filles.
Oui, c'est ça. Surtout dans un pays où, comme vous le dites si bien, les infrastructures, c'est pas ce qui manque. Mais on dirait qu'il y a un système d'un poids deux mesures entre les hommes auxquels les dirigeants sud-africains donnent plus d'importance que les femmes. Mais je pourrais rappeler à titre d'exemple qu'aux États-Unis, par exemple, ce sont les femmes qui ont été, représentées valablement ce pays pendant très longtemps avant que le football masculin se réveille. Donc, le football, c'est une affaire économique. Il faudrait vraiment s'impliquer grandement dans les progrès du football féminin en Afrique.
La préparation des Bayana Bayana a aussi été perturbée par un conflit avec leur fédération sur la question des primes, l'éternelle question. Les joueuses ont rapporté qu'elles toucheraient chacune 30 000 dollars de la part de la FIFA. Mais rien de la Fédération sud-africaine de football et la FIFA a décidé de verser directement les primes aux joueuses pour éviter les soucis justement que certaines d'entre elles ont avec leur fédération. Amdine, c'est une bonne idée par contre.
Oui, c'est une bonne idée. La FIFA est en train de tout faire quand même pour relever le niveau du foot féminin. D'abord, si on regarde la somme que la FIFA a mise sur la table par rapport à la dernière somme, c'est 152 millions de dollars, soit 3 fois plus que la dernière somme que la FIFA avait allouée aux équipes. Donc la FIFA est en train de tout faire. Maintenant, on sait que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames, les équipes africaines ont l'habitude de poser ces problèmes de primes sur la table en pleine compétition, ce qui n'est pas bien pour l'image de l'Afrique. On se rappelle encore des Togolais qui ne voulaient pas jouer le premier match lors de la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Mais c'était vraiment triste de voir tout ça. Et il a fallu l'intervention de tout le monde pour que les Togolais puissent jouer leur match à la Coupe du Monde. Parlant de l'Afrique du Sud, pourtant, ce pays est gâté sur le plan des primes, puisque seule l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, les dames ont presque des primes égaux aux primes des garçons. Mais malheureusement, il y a toujours des problèmes. Moi, je le regrette, c'est vraiment dommage, mais la FIFA est en train quand même de sortir les gros moyens pour éviter ces genres de conflits au niveau des équipes surtout africaines, Yacouba.
On espère bien sûr que tout cela prendra fin un jour sur le continent. Et pour le directeur financier de la Fédération sud-africaine de football, je le cite, les joueuses se montrent excessives dans leurs exigences. Il a rappelé que lors de la précédente Coupe du Monde France en 2019, les Bayana Bayana ont touché chacune 1500 dollars. Élisée, 10-15 secondes, c'est pratiquement insignifiant tout ça.
Un pays, une grande nation de football comme l'Afrique du Sud, aller jouer un mondial et encaisser pratiquement 900 000 francs CFA. Vous imaginez, c'est un manque de respect. C'est pour ça aujourd'hui la rupture est totale et on espère que le ministre des Sports, Zizi Kondwa, va trouver la solution afin d'apaiser les uns et les autres.
Merci Élisée. Alors on l'avait annoncé, on en parle très rapidement, 10-15 secondes. Alors Jules, le centrafricain, le capitaine de l'équipe centrafricaine Geoffrey Kondogbia rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de l'Atlético Madrid. Bonne ou mauvaise affaire?
Oui, c'est une bonne affaire et surtout le joueur va garder son haut niveau. Les deux clubs de départ et d'arrivée dans des clubs très ambitieux sur la scène européenne. Mais en plus, à Marseille, il aura plus de chances d'être totalement titulaire. C'est un joueur indispensable au l'épanouissement du football dans son pays. On lui souhaite bonne chance.
Merci beaucoup, Jules Valentin Gouet. Merci à Amdine Si. Merci à Élisée Mkwatine. Merci également à Georges Léonard Sagno qui a réalisé cette émission. Sporama s'achève ici. Merci à vous, hein, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de ce numéro. Je suis Yacouba Ouédraogo. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, tout de suite, vous aurez une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.